Alors, je suis heureux d'accueillir Masataka Ishibashi, qui est le fondateur, un des quatre fondateurs de la société Jules Verne du Japon, rédacteur de la revue Excelsior, auteur de nombreux articles sur Jules Verne et auteur d'une thèse intitulée « Description de la Terre comme projet éditorial, les voyages extraordinaires de Jules Verne, le système de l'éditeur Excel » qu'il a soutenu en 2007 à Paris. Je suis vraiment très heureux de vous le présenter parce que il m'a beaucoup aidé dans mes recherches, dans des articles, puisque je travaille moi sur les dessins animés et sur les dessins animés japonais en particulier. Et j'ose affirmer ici haut et fort que le Japon est un des pays qui comprend le mieux Jules Verne, parfois bien mieux que nous-mêmes.
Merci Patrice. Je vais parler aujourd'hui et des débats entre Jules Verne et Pierre Jurecter sur l'anticipation. Les 10 premières années des rapports professionnels entre Jules Verne et Pierre Jurecter sont, semble-t-il, dynamisées par une suite de renversements. Dans chacun de ses romans, Jules Verne retourne plus ou moins ce qu'il vient d'écrire dans son précédent roman. Voudrait-il par là afficher une distance vis-à-vis de lui-même, ou devrait-on voir là une précaution contre le risque de se voir refusé par l'éditeur? C'est qu'au même de cette relation entre l'auteur et l'éditeur se trouve un terrain où ils ont des points de vue absolument compatibles. L'un des plus ardents désirs de Jules Verne est toujours d'écrire un roman d'anticipation sur la société occidentale. Or, il n'y a rien qui puisse susciter les réticences de Hetzer plus que les anticipations de cette sorte. L'éditeur pense qu'en s'éloignant trop de son temps, Verne finit par faire déraper son imagination. Toujours selon l'éditeur, la description trop foisonnante de Paris au XXe siècle devient invraisemblable et vaine. À la suite de ce refus de Paris au XXe siècle, qui marque quasiment le début de sa relation avec Hetzer, Verne semble écrire ses romans pour qu'ils forment, pour ainsi dire, l'envers de Paris au XXe siècle. Ainsi, le lecteur des Voyages extraordinaires se voit pratiquement interdit de quitter son époque. Non seulement les techniques restent peu connues dans la société contemporaine et strictement limitées dans leur champ d'application, mais aussi elles se trouvent le plus souvent mises en œuvre loin de la France, ce qui fait de ces techniques localisées autant d'îlots isolés. Cet éloignement et séparation dans l'espace permettent aux techniques de prendre une certaine avance temporelle sur le reste du monde. Les techniques jouent le rôle du futur proche au sein même de la société contemporaine. Apparemment, Hetzer ne tolère l'anticipation que sous ces conditions bien précises. Si Verne opère un tel retournement par rapport à Paris au XXe siècle, c'est pour prendre une distance par rapport à l'un de ses plus ardents désirs, et les renversements qui suivront le rejurent en quelque sorte. Cependant, ce retournement primordial à son précédent qui débute, lui, la collaboration Verne-Hetzer. Comme le détaille plus tard Volker Diess dans la séance prochaine, leur première rencontre ne s'était pas passée comme on l'a toujours cru. Ce n'est pas le manuscrit de Saint-Smer en ballon que Jules Verne a présenté à Hetzer lors de leur premier entretien, mais il s'agissait en fait de voyages en Angleterre et en Écosse, texte semi-romanesque qui repose largement sur un voyage erreur de hauteur. Hetzer a vivement critiqué ce texte et il l'a refusé pour de bon. Or, la rédaction de Verne annonce... Or, la réaction de Verne annonce d'ores déjà une des caractéristiques les plus fondamentales de sa collaboration avec son futur éditeur et de ce fait même a rendu possible cette dernière. Il fait de ce refus le principe même de sa création littéraire. Il renverse le texte qu'il avait écrit de son propre chef pour le renier. Ainsi, le caractère autobiographique du récit de voyage va se retourner en son contraire, à savoir le caractère fictionnaire d'un voyage imaginaire. Même genre de renversement pour le choix du lieu de l'action. On passe du non-vécu au sud de documentaire fantasmatique, et flottant à la frontière du rêve et de l'imaginaire, le bal ensemble incarné se renverse moi-même. Car le rôle du ballon chez Vert s'est inversé lui aussi entre ce roman et une de ses nouvelles de jeunesse, Voyage en ballon, et publié en 1851. Dans ce texte précoce, le ballon ne sert pas à grand-chose sauf à faire des aéronautes autant de martyrs de la science. Au contraire, dans Saint-Smé en ballon, c'est pour mettre fin au martyrologe africain que le héros recule à cet engin technique. Près de son pays d'origine, cette invention française n'est qu'une machine à tuer. Appliquée à une exploration de pays lointains, elle élimine le mystère, sous même outil la cause de la mort de nombreux aventuriers européens. Comme on va le voir, cette tendance peut s'observer sur l'ensemble des machines apparues dans l'œuvre vernien et constitue, selon moi, une des clés de ces relations particulières entre l'auteur et son éditeur. Et le renversement se poursuit dans les romans qui viennent après Saint-Smé en ballon. Après l'Afrique, Verne se trône de nouveau vers le nord avec Voyage et aventure du capitaine Atlas. Le volcan en éruption au pôle nord s'endort dans le roman suivant pour donner accès au centre de la Terre. Le volcan Nature, en activité qui projette les voyageurs sur le terrain, devient celui qui, artificiel, est destiné à lancer les personnages de la Terre à la Lune à travers l'espace. Ces trois romans ont ceci de commun que les héros sont tentés d'atteindre, même au péril de leur vie, un point suprême, sans jamais y parvenir. Le centre de la Terre, le pôle nord ou la Lune qui tourne autour de notre planète. Ces points suprêmes condensent la totalité du monde. Or, dans les romans qui suivent, les personnages exploitent à leur corps défendant et de façon maximale une clôture spatio-temporelle qui englobe le monde. Les enfants du capitaine Grant qui sont contraints de suivre complètement le 37e parallèle sud à la recherche de leur père, ou le professeur Onax et ses compagnons à qui le caprice du capitaine Nemo fait faire un tour du monde sous-marin, et enfin les trois astronautes incapables de contrôler leur boulet prison, ni même de prévoir un trajet qui ramènerait sur Terre après avoir tourné autour de la Lune. Attirés sans le savoir vers le centre de la Terre, ils sont obligés de tourner autour de ce point. Les deux types de romans se laissent donc réduire à un seul et même désir, celui d'épuiser la totalité du globe terrestre dans le cadre de chaque roman singulier. Quoi qu'il en soit, le tour du monde sur Terre et sur mer précède le tour du monde sur les mers et le tour de notre satellite. On voit bien que la logique de renversement traverse aussi ce deuxième type de roman. Ces renversements successifs devaient être d'autant plus faciles que tout cela ne correspondait pas forcément au projet que Jules Verne avait conçu avant sa rencontre avec Elzer. Or, même s'il a l'air d'accepter aisément le jugement de l'éditeur sur le voyage en Angleterre et en Écosse, il digère assez mal un autre refus et cela conduit à réitérer à plusieurs reprises de semblables essais et pour se heurter chaque fois contre la même incompréhension de l'éditeur. Il s'agit bien évidemment du refus de Paris au XXe siècle. La première version de ce roman est probablement écrite en 1860 et bien avant la rencontre de Verne avec Hetzel. Elle est ensuite remaniée et soumise à la lecture d'Hetzel en 1863, soit juste après la publication de Saint-Smé en ballon et avant que Atlas commence à paraître dans magasin d'éducation et de récréation. Verne a écrit ce roman ambitieux de son plein gré, même s'il a ajouté, à l'occasion du remaniement, quelques passages de nature à plaire à Hetzel. Et comme on l'a déjà dit, il ne fait pas de doute qu'il y tienne énormément. Cela signifie que le renoncement à ce roman doit faciliter encore davantage les inversions incessantes qui produisent les premiers voyages extraordinaires. En d'autres termes, on pourrait considérer cette série romanesque comme un grand renversement de Paris au XXe siècle. Du futur au présent, de la France au reste du monde, dès lors que l'éloignement spatial remplace l'éloignement temporaire. De Voyage en Angleterre et en Écosse et de Paris au XXe siècle vont provenir deux éléments indispensables dans les voyages extraordinaires, la géographie et la technologie. Mais le renversement qui s'opère par rapport à l'un et l'autre roman entraîne le changement de la valeur de ces éléments dans les textes. L'objet principal de la géographie sera désormais les pays inconnus ou peu connus, et l'usage de la technologie sera limité à l'exploration de ces pays lointains, suivant à cela le modèle de 5 semaines en balle. Il est important de remarquer ici que la façon d'écrire n'en reste pas moins identique entre Paris au XXe siècle et les voyages extraordinaires. Dans les deux cas, Jules Verne utilise quelques exemples très concrets et bien réels, empruntés à la technologie toute récente, pour les faire servir à la représentation du futur. En effet, aucune des technologies futures de Paris au XXe siècle n'est inventée par l'imagination dernière. La liste des inventions ou des événements historiques mentionnés dans le roman ne se prolonge pratiquement jamais au-delà de l'année 1863, date de la mise au jour du premier manuscrit. Ce qui est supposé se passer depuis cette date, pendant un siècle, n'est constitué que de certains aspects du Second Empire démesurément extrapolés, tels que l'entreprise des établissements de crédit dans tous les domaines sociaux, le développement des moyens de transport, l'industrialisation du théâtre, etc. Et comme si Verne voulait compenser cette faiblesse, le narrateur étale ostensiblement les inventions techniques qui sont les plus récentes pour les lecteurs du XIXe siècle. Mais cela ne revient qu'à souligner le décalage de 100 ans entre les deux époques. Un autre problème, c'est que tous les personnages du roman sont censés être nés au XXe siècle, même si certains d'entre eux semblent s'être trompés d'époque pour naître. Le lecteur est tout naturellement amené à s'identifier au point de vue des hommes ordinaires du XXe siècle. Plus le narrateur essaie de souligner la nouveauté de ses inventions empruntées à la réalité, plus il est inévitable que celles-ci paraissent démodées. En revanche, comme on l'a déjà dit, ces objets techniques constituent, dans le monde des voyages extraordinaires, autant d'îlots isolés et situés loin de la France. Près de la France, ils sont projetés dans un avenir lointain pour asservir la société tout entière. Loin de la France, ils nous révèlent les merveilles de ce monde. Jules Verne ne pouvait pas se détacher des techniques de son temps qui constituent autant de limites pour son imagination. Les inventions toutes neuves ne savent pas fonctionner comme futur proche tant qu'un petit nombre de personnes ne les accapare pas. Et cet accaparement devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que l'on s'éloigne du temps qui voit naître ces inventions. Peu que ces dernières représentent le futur, on doit lever les yeux vers elles sans quitter le XIXe siècle et non pas les dominer du haut du futur lointain comme c'était le cas dans Paris au XXe siècle. Est-il à provoquer cette inversion de point de vue en interdisant l'anticipation du futur lointain? Né quasi directement de cette inversion primordiale et écrit successivement, deux romans seront destinés à jouer un rôle fondamental dans la naissance des voyages extraordinaires. Les romans en question, c'est-à-dire Voyage au centre de la Terre et De la Terre à la Lune, ne figurent pas dans le contrat signé en janvier 1864, juste après le refus de Paris au XXe siècle. Étant donné que le but de ce contrat est apparemment d'attacher à la maison Netzer un vulgarisateur de la géographie et non un romancier, et qu'un nouveau contrat signé à la veille du lancement des voyages extraordinaires stipule que M. Netzer s'engage à prendre le M. Verne et pas chaque année, trois volumes composés dans le genre de ceux qu'il a précédemment édités, du même auteur et faits pour le même public et de la même étendue, c'est l'apparition inattendue mais nécessaire de ces deux romans, respectivement Souterrain et Lunaire, qui décide Hetzel à publier tous les romans de Jules Verne sous un même titre général. Or, on sait que plusieurs passages de Paris au XXe siècle sont repris dans Voyage au centre de la Terre et De la Terre à la Lune. Et Foucaudès en dresse une liste dans un de ses articles. Il est temps d'examiner les modalités de ce recyclage. Rappelons d'abord les passage réutilisé. Au début de Paris au XXe siècle, le narrateur dit que l'on peut apprendre dans la Société Générale de Crédit Instructionnaire les 2000 langues et 4000 idiomes parlés dans le monde entier. Cette formule est reprise par le narrateur de Voyage au centre de Terre que qualifiait le héros polyglotte, le professeur Lidebloch. Le rayon de soleil qui ne pénètre dans l'appartement de l'oncle Yuvenon Solstice désignera ainsi l'accès au centre de la Terre. Réapparu dans les entrailles de la Terre, un vers de Virgile torturé par un élève du XXe siècle et appliqué à un troupeau de mastodontes et son gardien géant. Les réutilisations dans Donatella la Lune sont beaucoup plus poussées. Au XXe siècle, une lutte du ridicule entre la cuirasse et le boulet aboutit à faire disparaître la guerre. Cet épisode apparaît dans une discussion entre les personnages pendant laquelle le sudi oncle Huguenot dit, je cite, « Mais depuis que les canons portaient à 8000 mètres et qu'un boulet de 36 put à 100 mètres traverser 34 chevaux pris de flanc et 68 hommes, vous m'avouerez que le courage individuel devint une chose de luxe. » Fin de citation. Les siffles réapparaissent dans le roman Lionel en tant qu'ils concernent l'enfance de l'artillerie. La lutte entre la cuirasse et le boulet devient une rivalité entre Barbicain, fondateur de projectiles, et Nicole, forgeur de plaques. Et Nicole reprend le rapport entre l'artillerie et le courage individuel afin d'insulter Barbicain. On aura sans doute remarqué une caractéristique assez distincte commune à tous ces exemples. Les passages qui demeurent épisodiques dans Paris au XXe siècle sont exploités activement dans les deux romans suivants, soit pour développer l'intrigue, soit pour caractériser les personnages. Ce processus montre symboliquement les rapports entre Jules Verne et Pierre Jules Hetzel. Comme on va le constater en analysant d'autres anticipations que Verne a essayées dans le cadre des voyages extraordinaires, l'éloignement dans un futur lointain correspond chez cet auteur à un élargissement proportionnel de l'espace réservé à la technologie. Quand il s'agit du Xe siècle, les inventions les plus récentes d'alors se voient assigner un espace extrêmement restreint et situé le plus souvent loin de la France. Au fur et à mesure que les mêmes inventions s'éloignent de leurs époques d'origine, elles se répandent de plus en plus spatialement jusqu'à couvrir d'une manière inquiétante le monde entier. Friand d'énumération engendrée plus ou moins par une libre association d'idées, Verne jouit pleinement de cet élargissement du vide à en premier. Et ce vide se superpose à celui de l'écrivain Verne qui lui permet ses renversements et qui incite autrui à inscrire son désir comme éditeur. Dans Paris au XXe siècle, tout ce qui intéresse Verne se trouve énuméré et rempli de vide que l'auteur semble ressentir en lui, de sorte que là se trouvent déjà accumulés presque tous les éléments constitutifs de ses romans à venir. C'est sous l'effet du refus d'Hetzel que Verne va les reprendre pour les mettre en intrigue. Voilà précisément ce qui se passe quand certains éléments de Paris au XXe siècle sont recyclés dans Voyage au centre de la Terre et dans De la Terre à la Lune, deux romans qui font démarrer les voyages extraordinaires. Avec le passage du point de vue narratif du futur au présent, la technologie se trouve localisée, l'espace qu'elle a occupé cesse d'être français pour accueillir les énumérations géographiques justifiées par le caractère pédagogique. Ce deuxième type d'énumération est appelé à compenser l'interdiction du premier type d'énumération. Néanmoins, il s'agit d'un substitut insuffisant puisque Jules Verne ne renonce jamais au roman d'anticipation. Par contre, maintenant quelques cas où Verne cherche à reconquérir cette grande liberté pour des énumérations dont le caractère n'est pas forcément pédagogique. Pour cela, il faut commencer par insister de nouveau sur les analogies très fortes entre Paris au XXe siècle et de la Terre à la Lune. D'une verve satirique commune à ces deux romans résulte une tonalité et un rythme qui se retrouvent presque identiques dans l'un et l'autre roman. Tous les deux s'ouvrent par la présentation d'une organisation importante et les discussions entre les personnages scandent souvent les chapitres. La ressemblance la plus importante est qu'il appartient tous les deux au roman d'anticipation. Comme on le sait, c'est après la guerre de sécession aux États-Unis que les artilleurs américains de Gun Club préparent le départ pour la Lune, et la date de la publication du roman coïncide à peu près avec la fin de la guerre. Et pourtant, Verne avait écrit son roman pendant la guerre et avant que le président Lincoln soit assassiné, de sorte que dans la version manuscrite, le vieux Abraham Lincoln est censé trôner encore à Washington. Suite à l'échec de Paris au XXe siècle auprès de son éditeur, Verne a donc réduit prudemment la portée de son anticipation à quelques dizaines d'années. Mais à cause de cette prudence, il se fait rattraper par la réalité. À mon avis, c'est à ce moment-là que s'établit véritablement la poétique vernienne consistant à utiliser comme représentation du futur proche les inventions les plus nouvelles, isolées au sein de la société contemporaine. Toutefois, il me semble que Verne n'a pas cessé de considérer son diptyque lyonnais comme une anticipation. À preuve, la suite de ce dernier, Sans dessus-dessus, publié en 1889, raconte ce qui se passe dans les années 90. Avant la mort de Hetzer, Verne écrit encore deux romans d'anticipation. Hector Selvadac, publié en 1877, et Robert le Conquérant, publié en 1886. Dans ces romans, quelques projets techniques en cours de réalisation ou d'examen sont censés avoir été achevés ou entamés. Mère saharienne pour Hector Selvadac, Tour Eiffel, exploitation de l'énergie produite par les chutes Niagara et chemin de fer trans-saharienne pour Robert le Conquérant. Ces futurs projets sont trop localisés pour ne pas laisser intact le reste du monde. Il n'y avait donc aucun risque de provoquer Hetzer, à part la fin initialement prévue pour Hector Selvadac, où la chute d'une comète en or sur Terre diminue considérablement la valeur de ce métal. Une telle prudence continue après la mort d'Hetzer. Ni le grand transasiatique de Claudius von Barnack, publié en 1892, ni Standard Island de Lila Ellis, publié en 1895, ni la mer sahélienne de l'invasion de la mer, publié en 1905, ne dépassent les limites imposées par le feu éditeur. Seules quelques nouvelles peuvent supporter la comparaison avec Paris au XXe siècle, mais puisque la journée d'un journaliste américain en 1889 et Edom sont écrits par Michel Verne, il ne reste qu'une ville idéale, conférence prononcée devant l'Académie d'Amiens en 1875. Vu que cette dernière nouvelle est composée presque à la même époque que Hector Selvadac, il vient alors à Verne l'envie de récidiver. Par conséquent, il n'y a rien d'étonnant à ce que surgisse un événement répétant le refus de Paris au XXe siècle et un autre événement y succédant pour le contrebalancer. C'est-à-dire suppression d'un chapitre des Indes noires, roman écrit entre 1876 et 1877 d'une part, et adaptation d'un roman écrit par autrui, Les 500 millions de la Bégin, paru en 1879. Les Indes noires a pour décor une mine écossaise. On y découvre un vaste crypte où s'établit un petit village des mineurs, une sorte de village flamand souterrain. À la différence de la version publiée qui constitue une utopie industrielle modeste et idyllique, un chapitre intitulé « Une métropole de l'avenir » dans la version manuscrite décrit longuement une contrée souterraine nommée Andaland, contenant plusieurs villes, chemins de fer, bateaux à vapeur, enfin toute une Angleterre. Hetzer a critiqué avec véhémence ce chapitre au stade des épreuves. Il ne s'est d'ailleurs pas contenté de le faire supprimer, il a réécrit quelques-uns des derniers chapitres du roman. Verne regrette sa vision de la ville future dans les Indes noires, au point qu'il essaye de mettre, comme s'il voulait compenser cette amputation subie, un petit texte mentionne ci-dessus une ville idéale, à la fin des Indes noires, roman trop que pour un voyage. Le ton satirique de cette description de ce que serait Amiens dans 125 ans est assez proche du chapitre supprimé des Indes noires. Malgré son souci constant de fournir au public des volumes d'une même taille, Hetzer publie les Indes noires en volume avant de recevoir le texte d'une ville idéale. Tant il aborait la ville future de Verne. Verne souvent s'y réduit à un rôle de prête-nom. Il n'est plus là que pour endosser le nom de Verne forgé par Hetzer. La ville future incarne dès lors l'originalité même de l'auteur Verne, cela qu'il veut vraiment écrire. Pour rétablir l'autorité de Verne, ce désir d'écrire la ville future doit être satisfait d'une manière ou d'une autre. Il est en haute question de le satisfaire directement. Et voilà qu'un hasard surprenant intervient. Le manuscrit d'un exilé vient fournir le moyen de le faire négativement. Ce roman d'un certain Pascal Gouloussier porte en effet sur la conception de ville idéale et sur sa réalisation. Dès la première lecture du manuscrit, Hetzer y reconnaît une forte ressemblance avec les romans verniens et se décide d'emblée à l'acheter pour le faire écrire par Verne et pour le publier sous le nom de Verne. Au cours des négociations de cet achat, l'éditeur exige que cette première version soit remaniée, au moins une fois, et suivant ses indications, par Grousset lui-même. C'est d'abord pour verniser par l'avance le manuscrit et diminuer le travail vert. Ensuite, c'est pour vérifier l'insuffisance de cette vernisation et réduire d'autant mieux le rôle de Grousset à celui de simple nègre de Verne. Et enfin, pour rendre d'autant plus évidente la nécessité des retouches finales du maître. La situation de Verne dans cette affaire est très curieuse. Il ne reconnaît aucun mérite au manuscrit de Grousset. On doit se demander ici en quoi consisterait un mérite de Grousset dans ce cas précis. Si le texte de Grousset présentait une certaine originalité, Verne devrait réclamer pour son collègue le statut d'auteur indépendant. Comme il n'en est pas question, le mérite de Grousset ne pourrait consister que dans des ressemblances avec Verne. Et si, comme le prétend Elzer, il y avait du Verne chez Grousset, cela indique que du Verne est dans une certaine mesure imitable et n'appartient pas exclusivement à Verne. Dans ce cas, Verne aurait très bien pu reconnaître du Verne chez Grousset et prétendre que son originalité se trouve ailleurs. Or, il tient à refuser le moindre mérite à Grousset et cela en refusant toute ressemblance entre eux. Il ne prétend pas être le seul à pouvoir produire du Verne, au contraire. Seulement pour cette fois-ci, il veut au moins que ce soit à lui et non pas à Elzer de trancher la question de savoir en quoi consiste du Verne. S'il laissait l'éditeur trouver du Verne chez n'importe qui, il risquerait de devenir complètement substituable. S'il se voit ainsi obligé de défendre une partie de cette part imitable, c'est qu'il ne lui reste que cela. Autrement dit, il lui est interdit de réclamer directement son originalité. Pour ne pas se laisser substituer par un autre, il n'a plus qu'à faire remarquer que Grousset ne lui ressemble pas assez et à exiger qu'il soit plus vernien, et ce qui revient à lui imposer du Verne imposé par Elzer. Et c'est précisément un des deux objectifs poursuivis par Elzer dans cette affaire. Il s'agit de faire accepter du Verne à son auteur. Et quant au deuxième objectif, je vais l'aborder tout de suite. Il est maintenant inutile de préciser que le rôle de l'originalité vernienne est joué par la ville future et que du Verne n'est rien d'autre que la négation de celle-ci. Dans le roman, l'héritage de la Bégan est partagé entre deux savants français et allemands, le docteur Sarrazin et Herschutz. Ils construisent chacun une ville selon leurs idéaux antagoniques. Le modèle de la ville allemande est l'Usinclub, alors que la ville française reprend textuellement une conception hygiéniste d'un savant britannique, Benjamin Wadley Johnson. La description de ces deux villes est sans doute telle que Grousset l'a écrite. Verne écrit et s'accorde à reconnaître que la ville dystopique du Prussien est bien décrite et que celle utopique du Français est peu intéressante. En effet, la première est bien mise en intrigue, tandis que la deuxième, citation de texte de Richardson, se présente sous la forme d'un extrait d'un article de revue. Néanmoins, il paraît que l'éditeur n'a donné aucune instruction à Grousset pour améliorer la partie IGE. À ce que je sache, il n'a jamais discuté avec Verne sur ce point. De son côté, Verne n'offre jamais de redécrire à sa guise cette ville du bien-être qui sera rebaptisée Franceville dans les 500 millions de la Bégon. Après cette expérience amère concernant les Indes noires et une ville idéale, il ne pouvait pas dire qu'il aurait mieux fait que Grousset sur ce point essentiel qu'est la ville future. Même si la description de la ville française est pauvre, elle est, pour Elzer, beaucoup plus acceptable que celle de Verne dans Paris au XXe siècle ou les Indes noires. Comme il s'agit de la citation d'un texte scientifique, le côté énumératif est moins accentué que chez Verne. Et puis, les nouvelles techniques n'y sont appliquées que dans un espace strictement limité et de ce fait relativement sous le contrôle humain. Je cite le texte de Richardson. « Le nombre d'habitants de notre cité pourrait être fixé à 100 000 habitants, le nombre des maisons à 20 000. » Maisons érigées sur 4000 acres de terrain, ce qui équivaut à une moyenne de 25 personnes par acre. » Fin de la citation. Par ailleurs, Elzer demande à Grousset de porter toute la chose, tout le livre, en Amérique. Il y écrit, je cite, « Plus ces choses sont loin, plus l'invraisemblance peut s'accepter. » Fin de la citation. L'isolement et l'éloignement font donc partie d'une vraisemblance telle que Elzer la concevait. Ainsi, Pendant toute leur discussion sur le bégan, Vernet s'est passé sous silence le point essentiel. Et ce faisant, ils échangent leur rôle habituel. Ezer, lui, ose apprécier le manuscrit de Cross et de Van Verne. L'éditeur se charge ainsi de Lord Verne pour lui laisser dire ce que lui, Ezer, aurait dit normalement. Dans la mesure où Verne ne peut pas proposer de lui laisser reprendre la ville idéale de Grosset, il ne peut que lui imposer du Verne imposé par Ezer. Il faut que, pour une fois, ce soit Verne qui ait raison dans le débat. Ezer veut que Verne accepte la ville idéale telle qu'elle était décrite, ou plutôt citée par Grosset, et cela tout en reconnaissant les défauts de cette dernière. C'est ainsi que Ezer se met en dette envers Verne. Le désir de l'auteur de décrire une société future se trouve ainsi satisfaite d'une manière négative. Pourquoi Ezer déteste-t-il à ce point l'anticipation chez Verne? C'est d'une part parce que les caractéristiques des voyages extraordinaires résultent en grande partie de la négation de Paris au XXe siècle. Les anticipations verniennes se distinguent par leur caractère énumératif et leur insuffisance quant à la mise en intrigue. Comme on l'a déjà vu, c'est en s'éloignant du XIXe siècle que les technologies se délivrent de leur isolement et peuvent couvrir l'ensemble de la société. Mais aux yeux d'Ezer, cette liberté avec laquelle Verne se livre aux énumérations ne fait que produire une sorte de bazar ou de foire. Voici ce qu'alors il propose à son auteur pour la métropole de l'avenir dans des Indes noires. Je cite: comme je tâche de ne pas vous demander un sacrifice complet, vous introduirez dans un épilogue un personnage, un homme à projet, un Barnum, qui vient de la proposer à James Starr, le salon de votre petit monde souterrain, d'en faire ce que dans deux chapitres insensés vous en faisiez. Fin de la citation. Un an avant cette proposition de Ezer, Verne avait décrit lui-même une société future comme une foire. À la fin d'une ville idéale, le narrateur qui visite en rêve la ville d'Amiens en l'an 2000 erre euphoriquement parmi les machines bizarres exposées aux concours régionales. L'expérience de la ville future chez Verne est de se laisser entraîner dans le désordre à la fois fascinant et terrifiant d'une foire, ou plutôt d'une exposition universelle. Ce qui irrite Ezer, c'est l'éclat de tout ce foisonnement futur. Cette impression s'accentue d'autant plus que l'écart temporel entre le futur et le présent fait sentir à quel point ces techniques ainsi exposées sont loin d'être si nouvelles que le prétend l'auteur. Il ne s'agit que des inventions bien réelles du XIXe siècle. L'anticipation de Verne exerce un effet de contre-défamiliarisation sur la réalité quotidienne et familiarise trop la France. Les voyages extraordinaires inversent cet effet et en retournant le connu en l'inconnu. Merci de votre attention.